Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour et bienvenue dans la première émission de la saison. C'est reparti pour une année. Cette émission est préparée par Laure Grand Besançon, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Et aujourd'hui à la technique, c'est Pierre-Yves de Rolin. La gourmandise de ce matin, c'est le roman d'anticipation dystopique publié par un certain Richard Brachman en 1979, Marche ou crève. Dans une Amérique totalitaire a lieu chaque année une épreuve sportive qui soulève l'intérêt de tout le pays, la longue marche. Sous l'autorité du commandant, 100 volontaires de moins de 18 ans partent du Maine et se dirigent à pied et sans jamais s'arrêter vers le sud des États-Unis. Les garçons doivent respecter plusieurs règles et un rythme minimal leur est imposé. Jour et nuit, ils foulent douloureusement le sol dans l'espoir de remporter le prix de leur choix. Mais il y a une particularité. Quiconque s'arrête ou manque aux règles reçoit un avertissement. Et au bout de 3 avertissements, il se fait fusiller. Le gagnant est donc le dernier à rester en vie. Des types qui marchent pendant près de 400 pages, c'est ce que Bachman arrive à rendre absolument captivant. Si son nom vous dit quelque chose, c'est qu'il s'agit du pseudonyme d'un auteur qui revient souvent en début d'émission, celui qui transmue le spleen en peur, le bien nommé Stephen King. Écrivain, marin, académicien, enquêteur et épicurien, notre apothicaire de l'âme collecte les données de l'univers et les retransmet avec sensibilité et fantaisie. Enthousiaste, obstiné, il étudie d'abord la philosophie avec Jankélévitch, Mizrahi ou Deleuze, ainsi que les sciences politiques, puis l'économie en France et en Angleterre. À son retour de Londres, il publie son premier roman et devient docteur d'État. L'éternel étudiant a plusieurs vies, 11 années de recherche et d'enseignement dans le domaine de la finance internationale et de l'économie du développement, 8 ans de cabinet ministériel et présidentiel, et toute une vie d'écriture. Ancien conseiller culturel et plume de François Mitterrand, il a écrit plusieurs livres que d'autres ont signés. En 98, il est élu à l'Académie française et cofonde la même année Cital, je voulais le dire, je trouve ça amusant, une entreprise commercialisant la première liseuse électronique en France. La plurielle singularité de cet émerveillé lucide lui permet de se glisser dans d'autres vies d'hommes multiples. Pasteur, La Fontaine ou plus récemment Beaumarchais. À travers une œuvre composite et sensuelle, il façonne une encyclopédie subjectif du monde. Également ambassadeur de la lecture, il fut chargé par Françoise Nyssen, alors ministre de la Culture, de sillonner la France à la rencontre de la seule chose qui apparaît plus que Stephen King dans cette émission, les bibliothèques. La conclusion est parue en janvier dernier chez Stock et j'en fais la propagande. Bonjour Eric Orsena.
Bonjour.
La première question de cette émission, c'est quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ? Et j'ai l'impression que vous, le problème est inverse, Eric Orsena, puisque je lis dans une interview que vous parlez comme d'un problème de votre état explosif et du trop dans l'envie de vivre.
Oui, moi, je ne sais pas trop ce que c'est que la dépression. J'ai l'impression que je souffre de surpression. C'est-à-dire que j'ai toujours trop de vie qui frappe à la porte. Et c'est vrai que c'est désagréable l'idée de quitter cette terre, mais c'est encore plus désagréable de la quitter sans avoir mené toutes les vies. Toutes les vies. Et donc, c'est pour ça que je suis écrivain et romancier, parce qu'on vit la vie des autres. Et quand on vit la vie des autres, on peut vivre plusieurs vies en même temps. Vous voyez, donc je suis très politique. Je suis en même temps, mais biographique, pas politique.
Et vous n'avez jamais eu d'accès de spleen ?
Alors, j'ai des grands moments de tristesse qui sont liés toujours à la perte d'amis. J'avais un frère, c'est Jean-Marc Roberts, mon éditeur. Un autre frère, c'est Claude Durand, un autre éditeur. J'avais un amour, Stéphane, qui est morte à 42 ans d'un cancer terrible. Est-ce qu'il y a des cancers doux ? Je ne sais pas. Et donc, ils n'étaient plus là. Donc, j'ai continué à leur parler. De ma manière, ce n'est pas de la mélancolie. Je leur parle et ils répondent pas autant qu'avant. Et donc, ils sont toujours là, mais j'aimerais qu'ils viennent plus souvent. Ils viennent de temps en temps, mais pas aussi souvent que je le souhaiterais. Alors ça, je n'appelle pas ça de la mélancolie. C'est une sorte de... c'est une coupure. C'est une coupure. J'ai l'impression d'avoir été amputé. voyez. Mais la mélancolie, c'est-à-dire une sorte d'état un peu général, je tombe jamais là-dedans. Pour moi, des moments, j'ai pas l'impression d'être trop triste, j'ai l'impression d'être trop joyeux. C'est-à-dire que quand trop de vie se mêle en moi, j'ai l'impression que ça va éclater. Vous savez, l'image qui me vient, c'est, vous savez, quand on a soit une sorte de carrosse avec des tas de chevaux.
Alors, oui, j'en ai un, je vois très bien de quoi vous parlez.
Alors, il peut y avoir 2, 3, 4, double les chevaux. Alors, quand ils vont dans la même ligne, ça va. Mais de temps en temps, un cheval de droite veut aller à droite, l'autre à gauche, etc. Il s'écarte. Et à ce moment-là, le carrosse, ma vie, s'écarte complètement. Donc, j'ai l'impression que vous savez, comme dit Rimbaud, que ma quille éclate et que j'aille à la mer. C'est-à-dire, brutalement, ma tête explose. Alors, il faut rassembler petit à petit, comme s'il y avait un chien de troupeau qui rassemblait les différents moutons qui constituent ma tête.
Mais on va rencontrer plusieurs de ces moutons, Éric Orsenna, ce matin, si vous êtes d'accord, bien sûr, puisque vous allez convoquer dans quelques instants Truffaut, Pessoa, multiple s'il en est, Candide, l'écriture, des bateaux à voile, Diderot, Compay Segundo, Mozart, juste après le titre « On s'habitue à tout » de Renan Luce dans la playlist France Inter.
On s'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'ange, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, amoureux à gare s'en remettre au vaudou. S'en remettre au vaudou. On s'habitue à tout, à notre Eldorado, aux poumons remplis d'eau, aux urnes remplies de boue, au 21 avril, au réveil difficile et à celui des loups. On s'habitue à tout, au bruit de pas du dessus, à vivre un peu déçu, à vivre de peu de sous, à faire un peu l'autruche sans remettre les bûches qui font battre le pouls. On s'habitue, c'est tout, à faire sa petite danse javanaise de l'absence, et j'en bave pas vous, mais on s'habitue à tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, pour l'amour qui part, les amoureux à gare s'en remettre au vaudou. S'en remettre au vaudou. S'en
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Éric Orsenna. Et juste avant que nous découvrions votre film Anti-Spleen, Éric Orsenna, je vous ai posé hors antenne une question. Je ne m'attendais pas du tout à votre réponse. Je vous ai demandé, la pensée du suicide ne vous a jamais effleuré?
Et non, parce que, ou alors trop de suicides, parce que comme j'ai trop de vie en moi, donc il faudrait que je tue chacune des vies que j'ai en moi.
Ce serait long.
C'est-à-dire, ça serait long.
Et d'une façon différente.
Et puis, oui, et puis, une fois que j'aurais peut-être tué la moitié des vies, finalement, j'aimerais avoir les autres. Donc finalement, non, pour l'instant. Ça peut arriver n'importe quand. Et moi, je suis dévasté quand je vois le spectacle de proches qui sont envahis par cette marée noire comme ça et qui, de temps en temps, finit par les emporter.
Jim commença, il était une fois deux jeunes gens, et il décrivit sans les nommer Jules et lui-même, leur amitié, leur vie à Paris avant l'arrivée d'une certaine jeune femme, comment elle leur a paru et ce qui s'en suivit. Il raconta même le « pas celle-là, Jim ». Ici, Jim ne put s'empêcher de dire son propre nom. Leur sortie à trois, leur séjour au bord de la mer. Catherine put voir que Jim se rappelait ce qui la concernait comme s'il y était encore. Elle discuta quelques détails pour le principe et en ajouta d'autres. Jim décrivit leur rendez-vous manqué au café, il raconta eux trois vus par lui, il dit les trésors cachés en Jules et comment il avait pressenti dès le début que Jules ne pourrait pas garder Catherine.
1962, l'adaptation par Truffaut du roman d'Henri-Pierre Rocher, Jules et Jim. Éric Orsenna, vous avez choisi ce triangle amoureux qui commence à Paris en 1912 comme un remède à la mélancolie. Truffaut considérait ce film aussi comme un hymne à l'amour et à la vie et personnellement, je ne peux m'empêcher de voir uniquement le côté mortifère, le contraire de la pulsion de vie, en fait, dans ce film.
Mais pas du tout. Ils sont trois, ils s'aiment, ils sont obligés d'inventer.
Ils souffrent sans cesse.
Ils souffrent, oui, mais ils souffrent, mais en souffrant, ils reconnaissent cette force de l'amour qui est plus forte que tout. Donc, ils inventent sans arrêt. Donc, ils sont en déséquilibre, comme la valse c'est en trois temps. En deux temps, c'est bête. Mais quand c'est en trois temps, ça veut dire qu'il faut continuer pour pas tomber. Donc il continue pour pas tomber. Et puis il y a aussi le flashback, c'est-à-dire il part sans arrêt ce récit magnifique, cette tension qui est là, et puis ce respect infini. Quand on est deux, on n'est pas forcément respectueux de l'autre, on n'est pas forcément respectueux de l'amour. Là, on doit être extraordinairement attentif. Et donc, moi, s'il y a une sorte d'exploration douce, vous savez, il y a des explorations comme ça, on va dans les contrées les plus lointaines, et là, c'est l'exploration du proche.
Puisque donc, pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, c'est deux meilleurs amis qui tombent tous les deux amoureux d'une femme campée par Jeanne Moreau. Et Éric Orsenna, que pensez-vous de Jeanne Moreau qui, dans ce film, est vraiment... Elle est comparée à un moment à Napoléon. C'est un dictateur, cette femme.
C'est à la fois un dictateur, mais ce qui est très amusant, c'est que Jeanne, que j'ai connue, dans ce film, c'est le mec.
Oui.
Et que les deux féminins, c'est les deux garçons. Et donc, moi, ces échanges... ça me fascine, c'est-à-dire que je supporte pas d'être assigné à résidence, d'en me dire tiens tu es comme ça. Non, je suis comme ça, mais je pourrais être autre et l'instant d'après je serai autre. Je avec mille fois moins de talent que vous, mais je pourrais peut-être faire une émission. Je pourrais peut-être.
Arrêtez,
parce que je tellement curieux des autres, vous voyez. Donc pas être soi-même, être entier de soi, être enfermé en soi, être emprisonné de soi. Et c'est pourquoi j'ai cité Fernando Pessoa, cet immense poète, c'est qui dit n'être qu'un est une prison.
Je suis un évadé. Dès que je suis né, en moi, l'on m'a enfermé. Oui, mais je me suis enfui. Si l'on se lasse du même endroit, du même être, pourquoi ne pas se lasser? Mon âme est à ma recherche, mais je suis en cavale. Puisse-t-elle ne jamais me rencontrer? Être un, c'est une prison. Être moi, c'est ne pas être. Je vivrai dans la fuite, mais vivant pour de bon.
C'est la plume de Pessoa qu'on entend dans la voix de Laure Grand-Besançon. Et dedans, il y a votre citation consolatoire. Éric Orsenna, vous l'avez cité juste avant cet extrait. N'être qu'un est une prison, une maxime qui se trouve également en exergue de votre ouvrage Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Beaumarchais qui a exercé plusieurs métiers et que vous qualifiez de trop gourmand pour ne pas tout vivre à la fois. Ça vous ressemble un peu. Et c'est une citation, Éric Orsenna, que vous tenez de Jean-Pierre de Beaumarchais.
Ah oui, vous imaginez. Il se trouve que, grâce à une amie, Malcy Ozana, je rencontre Jean-Pierre de Beaumarchais. Et je mourais de trac parce que je savais qu'il était là, parce que je l'avais croisé une fois quand j'étais à Londres. Et puis, j'osais pas lui envoyer le livre. Quand même. Jean-Pierre de Beaumarchais, descendant direct du génie. Et puis, ce dîner, nous parlons un peu, semble-t-il, le même langage. Je lui envoie le livre et je ne dors pas. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit « ça va ». Et c'est grâce à une sorte d'accueil qu'il m'a fait ce cadeau immense de la citation de Pessoa que je ne connaissais pas. Et évidemment que j'ai mis en ouverture, parce que c'est vraiment ça. Et c'est vraiment le Portugal. C'est-à-dire, c'est vrai, ce petit pays qui est obligé d'aller explorer le monde pour se guérir de sa tristesse d'avoir perdu son empire aussi. C'est-à-dire, et c'est le fado. Le fado, c'est ça qu'on a écouté.
La mélancolie douce.
Et la mélancolie douce que j'ai retrouvée au Brésil, puisque une grande partie de ma famille est brésilienne. Le saudade qui est là, et même cette façon de dire saudade, comme ça. Et j'ai des souvenirs avec des amis brésiliens, puisque une grande partie de ma famille est brésilienne au moment de la dictature. Ils étaient réfugiés et on discutait politique. Et il dit « Eric, tu as oublié la force irrépressible de la violence. » Et c'était ça. C'était le fado. Ils étaient les armes à la main, mais c'était la violence. Et c'est ça que j'aime tant, le Portugal.
Et c'est très doux quand vous dites la violence de cette façon, Eric Orsenna. Vous avez choisi Pessoa, qui est quand même l'un des hommes à avoir eu le plus de pseudonymes. Il en a utilisé 72. Comme lui, vous avez des activités multiples. Orsenna est un pseudonyme, je le dis, puisque vous le dites publiquement. C'est le nom de la vieille ville du rivage des Sirtes, de Julien Gracq. Donc une identité déjà littéraire. Combien êtes-vous, Eric Orsenna?
Alors, je ne sais pas trop, parce que ça se multiplie à chaque fois.
Vous ne vous perdez pas un peu? Vous vous connaissez tous?
Non, parce que au fond, je ne sais pas qui je suis et ça ne m'intéresse absolument pas. Pas du tout, parce que j'explore des choses. Et puis, quand je découvre des gens, comme vous par exemple, je suis vous aussi. Je ne sais pas qui je suis.
Je suis désolé pour vous, Eric Orsenna. Vous allez passer un mauvais moment.
Pas du tout. C'est que, vous voyez, donc il y a une part... Vous savez, pourquoi on est écrivain? Parce qu'on est incertain de sa réalité propre. Et pourquoi tant d'écrivains choisissent pour écrire d'être dans des lieux neutres, comme des chambres d'hôtel, comme des bateaux? J'étais en bateau il y a très peu de temps. Et vous sortez de l'adhérence. Donc vous n'êtes plus vous-même, donc vous pouvez être ouvert, vous ne savez pas qui vous êtes. C'est très peu important. C'est pour ça que l'écrivain est l'inverse du politique. Le politique doit affirmer son ego, l'écrivain doit le gommer.
Y a-t-il des Orsenna que vous n'appréciez pas et y a-t-il des vies que vous regrettez de ne pas avoir eues?
Alors, l'Orsenna que je supporte pas, c'est celui que justement quand il y en a trop, c'est-à-dire c'est une sorte de frénésie, c'est-à-dire une rapidité dans le changement. Comme vous savez, ces croisières, on passe 2 heures et puis on va et puis dans la jeunesse, les catalogues de entre guillemets conquêtes, etc. C'est nul, c'est-à-dire le temps. Ma mère disait un truc que j'aimais, ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Et alors je complète, ce qui mérite d'être fait mérite la lenteur de la fabrique. Et donc la dimension de la lenteur, c'est contradictoire parce qu'il me reste de moins en moins de temps à vivre. Mais au fond, plus j'avance, plus je ralentis. Et les regrets, je les chasse. Et l'exemple le plus grand que j'ai, que je dis partout, c'est la musique. La musique, j'étais fou de musique, mais je m'interdisais la musique. Et je me suis dit, pourquoi cette interdiction ? Et donc, il y a 3 ans et demi, je me suis dit, j'ai regardé un clavier de piano, j'ai dit, je vais m'y mettre au piano. Donc, je suis nul, mais je travaille à peu près 1 heure. J'ai un formidable professeur, Philippe Lecointre, que je salue, que j'aime, à qui je dis toute ma gratitude. Et je regarde mes doigts avec moins de mélancolie qu'avant, puisque figurez-vous que mes doigts bougent et que de temps en temps, de ces 10 doigts, naît un semblant de musique. Et là, je suis le plus heureux. Donc, pourquoi tous ceux qui nous écoutent, qui vont devenir des cuisiniers, puisqu'ils vont écouter l'émission formidable de Gaudry juste après, eh bien, pourquoi, en même temps qu'ils sont cuisiniers, pourquoi ne deviennent-ils pas musiciens ?
C'est vrai. Alors, parfois, ce n'est pas toujours une bonne idée. Mais Eric Orsenna, vous concernant, parmi toutes vos identités, il y en a une que vous appréciez et qui est une source de joie, bien heureusement, c'est celle de l'écrivain. Et alors, d'habitude, quand quelqu'un me dit que l'écriture fait partie de ses remèdes à la mélancolie, je lui pose la question, n'est-ce jamais douloureux? Et vous, c'est le contraire, à nouveau, vous dites dans une interview... Quand je trouve une page mauvaise, je me dis que c'est normal et donc je recommence. Ça, c'est la sagesse suprême, en fait. Accepter d'être d'abord mauvais, la souffrance de l'écriture, ça vient du fait que nous n'acceptions pas d'être d'abord mauvais.
Mais c'est quand même hallucinant de penser qu'on va être directement bon.
C'est prétentieux, en fait. C'est l'humilité de l'artisan.
Oui, mais en même temps, c'est se priver du chemin. Celui qui n'a pas compris que le goût du voyage, c'est le chemin, c'est pas la destination, celui-là est un imbécile non fréquentable. Mais vous savez, je suis en train d'écrire des contes de la modernité. Voilà, expliquer ce qui se passe en ce moment. Et franchement, alors que j'écris depuis l'âge de 8 ans, donc c'est nul, et ben je recommence. Et c'est pas grave que ça soit nul. Parce que ce que j'aime, c'est ce chemin. J'aime le chemin, vous voyez. Donc, c'est pas frénétique toujours. Ce que j'aime, c'est justement, comme il y a différentes vies, différents temps en soi. Et ça, c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur la mer. C'est-à-dire que la mer, c'est 6 heures, et puis ça peut être 1200 ans.
Mais pour revenir à l'écriture, et la mer d'ailleurs, vous comparez beaucoup Eric Orsenna à la navigation à l'écriture, on va y revenir. Votre premier roman, publié à l'âge de 27 ans, Loyola's Blues, c'était votre 13e roman écrit.
Oui. Ben oui, parce que justement, donc, comme j'ai commencé à écrire à 8 ans, j'ai écrit 11 livres.
Parce que vous étiez mal dans votre peau et vous pensiez être aimé par l'écriture.
Oui, parce que mes parents, à mon grand désespoir, ne s'aimaient pas. Donc je me suis dit, je vais écrire un monde dans lequel les êtres humains peuvent s'aimer et se manquent pas. Il y avait de l'amour et ils n'ont jamais réussi à connecter cet amour-là. Je me suis dit, peut-être il y aura un univers où voilà, c'est possible. Donc j'écris 11, chaque année j'écrivais un livre que je jetais au retour des vacances, ce n'est nul. J'ai montré le 12e, qui s'appelait Central Park, qui a été refusé. Mais un formidable éditeur, qui était le père adoptif, d'une certaine manière, de Jean-Marc Robert, qui était Jean Kerol, m'a fait venir. À l'époque, je faisais des maths à Londres. Et il m'a dit, j'espère que vous savez que c'est très mauvais. Alors j'ai dit, et là j'ai failli m'évanouir, parce que j'avais dit à tout le monde, ça y est, j'ai reçu un pneumatique, donc j'étais perdu complètement. Et puis voilà, puis il m'a écrit sans arrêt, et puis enfin j'ai fait Loyola's Blues, dont le titre vous montrera à quel point j'attendais un grand succès public. D'ailleurs, j'ai été tout à fait récompensé, puisque on a vendu, je crois, 300 exemplaires, parce que j'ai une grande famille bretonne qui achète tout ce que je fais.
On va d'ailleurs se diriger vers la Bretagne un moment pendant quelques secondes.
C'est toi, Eric, qui va en parler quand tu parleras du problème géopolitique.
Alors moi, je fais l'introduction sur les routes maritimes. Qu'est-ce qu'une route maritime à travers les âges, avec les vents, les courants, comment ça marche. Ensuite, dans l'exploration, je fais Nordenskjöld, à la fois Papanin et Otto Schmidt. Après, je fais géopolitique, questions juridiques, conseil arctique, toutes ces dimensions, les bruits de bottes à glace, les bruits de crampons, et tout se tue dans tout cela. Je fais évidemment toute la dimension économique. Et on arrête à 800 pages.
En 2014, Eric Orsenna vous publie avec la navigatrice Isabelle Autissier le livre Passer par le Nord aux éditions Paulsen, dans lequel vous dressez un état des enjeux géopolitiques, écologiques et économiques du pôle Nord. On vient de vous entendre, mais vous ne vous êtes pas reconnus puisque vous êtes trop nombreux, dans le documentaire réalisé par les éditions à cette occasion. Un extrait choisi pour illustrer l'autre activité qui vous met en joie, c'est le bateau à voile. Et vous avez été élu à l'Académie française au fauteuil de Jacques-Yves Cousteau.
Ah oui, ben ça c'est
pas un hasard.
Enfin c'est un hasard, c'est quand même merveilleux, puisque si vous voulez, je suis au fauteuil de Cousteau, donc je rends hommage à Cousteau, qui est un personnage qui avait des zones d'ombre comme tous, mais qui quand même nous a légué ce respect formidable de la mer. Et moi, je me souviens quand j'étais petit, le monde du silence, il nous fait découvrir un univers. Et je vous rappelle que ce film a eu la Palme d'Or et que il a été fait avec Louis Malle. Donc, c'est des explorateurs. Vous voyez, quand on parlait, c'est Truffaut d'un côté, mais Louis Malle aussi, un formidable explorateur. Donc, il nous donne des univers. Les livres que vous aimez tant, c'est comme les films. Pourquoi s'assigner, encore une fois, à la résidence d'un seul univers? Donc, Cousteau, c'est ça. Et Cousteau, on lui doit, puisque c'est lui qui était très connu aux États-Unis, qui a permis à au président de la République américaine de l'époque, c'est-à-dire Bush père, de sauver l'Antarctique quand même. Donc j'ai cette chance immense à l'Académie d'être au fauteuil de Cousteau et à celui de Pasteur.
Éric Orsenna, vous avez consacré plusieurs de vos ouvrages à la mer. Vous êtes le parrain de la fondation Tara Océan pour cette année. Vous faites des régates, des courses de vitesse. Qu'éprouvez-vous en mer ? J'avais reçu Isabelle Autissier l'année dernière et ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle n'avait jamais peur. La peur était totalement absente de son panthéon d'émotions. Est-ce le cas aussi pour vous, Éric Orsenna ?
Pas du tout. Moi, j'ai eu peur avec elle, d'ailleurs.
D'accord.
Mais en même temps, je me disais que si je suis noyé en étant sur le bateau d'Isabelle Autissier, c'était mon destin. Et donc, non, on a eu un moment donné, on a eu vraiment les jetons, et c'était pas la mer, c'est à cause des glaces. Vous savez qu'il y a une grande échancrure dans le continent antarctique, ça s'appelle la mer de Weddell. Et on avait profité du beau temps pour être loin, saluer un grand explorateur qui s'appelle Dordenskjöld sur une île qui s'appelle Snow Hill, on avait été là. Et puis, le vent s'était levé, et quand le vent se lève, le pack se forme. Donc, on était prisonniers. Et pendant 12 heures...
Comme Shackleton.
Voilà. Exactement. Et pendant 12 heures, on a essayé de s'extirper de cette prison. Et honnêtement, si on avait été pris dans cette prison, on aurait été broyé, etc. C'était moyen. Et là, à la fois, j'ai eu peur, mais il y avait une sorte de résignation en disant « Je préfère, au fond, être écrasé en mer de Weddell plutôt que rendre mon dernier soupir avec plein de tuyaux dans un hôpital parisien ».
Encore la mise en scène d'une de vos morts, vos multiples morts.
Eh bien, oui, la mise en scène, c'est... Vous savez, comme quand on rencontre un être d'amitié ou d'amour, on dit « il a une histoire ». Moi, j'aime avoir des histoires. Une vie sans histoire, pour moi, une vie sans vie. Donc, c'est vrai qu'on met en scène. Et ça aurait été bien. Donc, il faut que je trouve une autre fin de ce niveau.
On va chercher. Dans un instant, nous serons en direct du XVIIIe siècle, le temps d'écouter Begin Again de Norah Jones dans la playlist France Inter. Every thought that I ignore, now the questions at my door. Where will we begin to believe in this again? Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? Do you know? To eat the words you wrote. I've said these words before. Felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Where the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie d'Éric Orsenna. Votre sérum littéraire, c'est le conte philosophique Candide de Voltaire, publié anonymement en 1759. Voltaire, c'est un pseudonyme, puisque l'émission est vraiment sous l'égide des pseudonymes aujourd'hui. Et Candide, ça vient du latin Candidus, qui signifiait éclatant. C'est vraiment Voltaire qui lui a donné le sens que l'on connaît aujourd'hui, un pur, un innocent, dont la naïveté est choquante. Vous l'avez lu plusieurs fois, ce livre très très drôle, on l'oublie souvent.
Ah, je n'arrête pas. Chaque année, je plonge dans Candide et j'y trouve des trésors différents. Et puis, j'aime bien lire à haute voix aussi. Et lire à moi-même et lire à des gens. Ou quand je vais dans les classes, ce qui m'arrive souvent, je leur demande de lire et ils ne se rendaient pas compte que ce que c'était de lire à haute voix, comme apprendre par cœur. Vous savez, apprendre par cœur, c'est joli de dire par cœur. Pourquoi on n'apprend plus par cœur? Ben, le cœur est perdu puisqu'il n'a pas appris pour lui par cœur. Et donc, c'est tellement... Écoutez ça. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa et lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thundertentrau, qui est le père de Cunégonde, passa auprès du paravent et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Ben voilà.
C'est le début.
C'est le début de cette longue...
De ce périple
invraisemblable. Et Cunégonde accueillit l'arrivée de telle chose et qui va finir dans une situation incroyable. Donc on peut lire Candide. Abonnez-vous à Candide, c'est moins cher que Netflix.
Comme feuilleton. Éric Orsenna, je ne peux m'empêcher de penser à votre portrait d'André Le Nôtre qui était intitulé Portrait d'un homme heureux, jardinier, puisque quand même on en vient à ça à la fin de Candide, cultiver son jardin. Vous vous y êtes intéressé en devenant président de l'École nationale supérieure du paysage.
Alors écoutez, moi il m'est arrivé un truc, donc par les hasards de la vie administrative, j'étais conseiller d'État, il fallait quelqu'un qui apaise plutôt, et donc je suis élu. Et donc je visite le potager du roi. Et je vois le directeur et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on greffe un poirier sur un cognassier? Il me regarde accablé en disant, je voyais dans ses yeux qu'il avait déjà eu des présidents nuls, mais comme moi, jamais. Et me dit cette phrase qui m'a fait aimer la botanique pour toujours. Il m'a dit, mais monsieur le président, un poirier, c'est incontrôlable. Et que je venais des cabinets ministériels où ça flambait dans tous les sens, il y avait du sang partout sur les murs et tout ça. Je me suis dit, si la seule violence est celle des poiriers, à mon sens, je vais devenir jardinier. Il y a un truc tout à fait clair, c'est que nous n'avons pas le monopole de la vie. Nous, virgule, animaux, virgule, n'avons pas le monopole de la vie. Et c'est ça qui me fascine quand je travaille avec Tara, c'est que la santé de l'océan, c'est la santé des fleuves. Et la santé des humains, c'est la santé des animaux, et c'est la santé aussi des végétaux. Vous voyez, il y a une vision globale comme ça de la vie.
Et encyclopédique, Éric Orsenna, et c'est justement votre système de pensée béquille, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Vous savez que c'est de cet ouvrage que vient ma définition préférée de la mélancolie?
Mais non.
C'est le sentiment habituel de notre imperfection.
Oui, mais ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui.
Parce que, mais alors, c'est extraordinaire d'être mélancolique à partir de ça. Comprenez? Moi, la vraie définition pour moi de la mélancolie, de cette maladie qui peut être la mélancolie, c'est pas ce mot même. C'est ce substantif avec l'adjectif trouvé par Spinoza qui parle des passions tristes. Donc, en soi-même, calmer les passions tristes en soi et les éteindre les unes après les autres. On sait très bien qu'on a des passions tristes. Et passions tristes, en plus, c'est insulter la tristesse. C'est même pas les passions tristes, c'est des passions aigres. Parce que la tristesse est noble, l'aigreur est méprisable.
Mais
c'est
alors,
fort, hein, ça.
Alors là, c'est fort. Vous voyez, je ne peux pas répondre à Éric Orsenna.
Vous voyez pas ça, hein. Oui. Je vous sens... Là, si je puis me permettre, vulgairement parlant, je vous coupe le sifflet. Là.
Vous me coupez le sifflet, Éric
Orsenna. Et pour une dame de radio, coupez le sifflet. Une dame de radio et une star de la radio, c'est quand même compliqué.
Comme vous y allez, je reviens à l'encyclopédie. Vous dont l'œuvre est encyclopédique.
Mais parce que j'essaye de comprendre. Comprendre, ça veut dire prendre en même temps. C'est-à-dire saisir, prendre dans ses bras. Pourquoi ne pas prendre le monde dans ses bras?
Pourquoi?
Mais c'est pas lourd, c'est léger, puisqu'on a les échos qui vous viennent, les résonances. C'est ça l'harmonie. L'harmonie, c'est pas prendre une note, C'est plusieurs en même temps. C'est comme ça. C'est enchanter le monde. Il y a le plus beau poème pour moi, c'est celui de Neruda. C'est le chant général. Le canto, comme ça, le chant général, comme on trouve dans les plus grands musiciens comme Bach, etc. Le chant, il faut faire chanter en soi la vie qui est là. Et moi, je suis entouré de grognons, mais que les grognons chantent, ça irait mieux.
Eric Orsena, quel est votre article préféré? Vous avez recopié une définition d'échappement dans votre livre consacré à Beaumarchais, mais quel est votre article préféré dans l'encyclopédie?
Ça serait sans doute Océan. Parce que l'océan, on vient de là. Vous savez, ce que j'aime, j'ai des professeurs dans différents domaines. Mon professeur de vie, c'est Gilles Boeuf, qui est l'ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle. Et il m'a dit cette phrase toute bête, mais il y a plusieurs mers, mais un seul océan. Et j'adore, moi, ces unités comme ça. De la même manière que j'ai compris des tas de choses en moi, en me rendant compte qu'en moi-même, il y avait plusieurs horloges, comme la mer. Nous sommes au fond une miniature d'océan.
Mais toutes ces horloges à réparer, ça ne vous fait pas peur, Eric Orsena? C'est beaucoup plus de travail.
Mais pas du tout, elles marchent ensemble. Écoutez ce qu'on dit en ce moment. Cette phrase est folle. Quand vous dites en médecine que la médecine générale est devenue une spécialité, mais on dit n'importe quoi. On est spécialiste mondial d'un centimètre carré de la rotule gauche et on ne sait pas pourquoi on a eu justement ce problème à la rotule. Donc, vive la culture générale, parce que nous sommes des généralités.
Et remuons les rotules de ce pas.
Para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín.
Ataque, compadre, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter avec Eric Orsenna qui vient de nous faire entendre un titre de 1986, Chan Chan, du musicien et chanteur cubain Compay Segundo. Cubain comme votre grand-père Eric Orsenna.
Eh oui, et je l'ai connu lui, alors il m'a dit cette phrase formidable parce qu'il avait fait un spectacle à l'Olympia et j'étais venu le voir. Et alors il voyait que j'adorais ce qu'il faisait et que je rêvais d'être chanteur. Il m'a dit, tu peux prendre ton temps. Mais ne dépasse pas 75 ans pour t'y mettre. Donc j'ai encore 3 ans pour devenir chanteur.
On vous attend.
Et qu'avec toute sa bande là, il était magnifique. Et il y en a plein à Cuba partout. Il y a des couples de gens très très mieux. Ça anime les EHPAD quoi.
Vous dites, Eric Orsenna, ça anime d'autres choses aussi. Mais oui. J'aime bien danser la salsa. Ça me semble une bonne allégorie de la vie.
Ben évidemment. Parce que, en même temps, c'est comme la valse, c'est une valse tropicale. C'est un peu déséquilibré, un, deux, comme ça, et on, à l'autre côté. Et puis, on le voit parce que ça peut être endiablé, et ça peut être très doux. Ça peut être endiablé, et puis on retrouve les douceurs de Jules et Jim. C'est ça ce que j'aime bien, les variations. Et puis, regardez la subtilité des rythmes. Parce que vous avez les sortes de triangles qu'on tape comme ça, etc. Et puis, vous avez plein d'autres choses.
Retour vers le 18e siècle. Le morceau « Alléluia » interprété par la soprano Emma Kirkby et l'orchestre de l'Académie de musique ancienne dirigé par Christopher Hogwood, extrait de la pièce « Exultate, jubilate » composée par Mozart en 1773 à l'âge de 17 ans. Exultez, réjouissez-vous, c'est ce que vous faites quand vous écoutez ce morceau, Eric Orsenna.
Moi je suis quand il a 17 ans et d'ailleurs ce qui poigne le cœur c'est qu'il a 17 ans et petit à petit il sera plus ouvert à une telle exultation, à une telle jubilation. Donc sa vie va devenir vraiment difficile et il n'y aura pas dans sa musique ce qu'on voit là maintenant. Et il y a des grands airs comme le grand sur lequel je travaille un tout petit peu parce que j'ai cette chance immense d'avoir été sollicité par le directeur du Théâtre des Champs-Élysées pour écrire, imaginez, une courte biographie de la comtesse. Donc il y a cette désespoir de plus être aimé comme avant, du temps qui passe et tout ça. Et là, c'est encore, voilà, une sorte de, la vie est là. Et oui, c'est là, vous savez, c'est pas le bonheur, c'est pas le plaisir, c'est ce qu'on appelle la joie. C'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de tout qui vous prend. C'est-à-dire, je crois, une communication avec ce mouvement qu'on peut appeler la vie.
Ce dont parle Spinoza, une communication avec ce mouvement qu'on peut appeler la vie, mais quand on nourrit le bon loup, justement, c'est-à-dire qu'on peut sans cesse aussi aller vers le mortifère, vers le contraire de la pulsion de vie, on peut s'associer à des êtres ou des choses qui nous emmènent vers les passions tristes.
Il y a des fois où on sait très bien qu'on va aller vers l'inverse de soi. Alors, est-ce que c'est pour se punir? Est-ce que c'est pour explorer? Est-ce que c'est parce qu'il y a une fascination? C'est vrai que il y a des amours terribles. Et puis, ce qui est très étonnant, j'ai vécu ça, pour être franc, récemment, il y a des amours qui commencent par un éblouissement, qui se poursuivent par un enfer, et qui après retrouvent un autre mode, exactement comme un concerto. Ça peut commencer allegro, largo, et puis on peut avoir un moment un peu symphonique si tout va bien.
Vous voyez tout comme des mélodies, Eric Orsenna?
Si vous voulez, les deux grandes comparaisons, c'est la mer et la musique. La mer parce que on vient de là.
Et puis il y a un rythme dans les
deux. Et puis la musique, puisque au fond on parle parce que on ne chante pas. La parole, c'est le substitut au chant.
Mais les premiers écrits, c'était des poèmes et ils étaient chantés.
Oui, mais on mettait les deux. Mais j'imagine que la première fois, on a commencé à souffler dans un roseau, on a commencé à taper sur un bout de bois pour retrouver des grandes pulsations comme ça et pour entendre le chant des oiseaux. J'ai appris un truc extraordinaire. Récemment, il y a 3 jours, en bateau, j'étais loin, là, vers le Groenland, et j'ai appris un truc incroyable. Est-ce que vous saviez que les plumes viennent des écailles? On a commencé par les écailles, les poissons, et puis comme on sait que les dinosaures, par exemple, sont les ancêtres des oiseaux, eh bien les oiseaux sont arrivés. Donc c'est amusant de voir que d'abord on protège avec les écailles, et ensuite on envole avec les plumes. Je suis émerveillé de voir à quel point les sciences de la vie sont des émerveillements. Et c'est vraiment pourquoi moi je me bataille pour ces évidences. Si notre planète était nulle, pourquoi se battre? Vous savez, les gens qui disent « sauvons la planète », mais la planète s'en fout. C'est nous qu'il faut sauver. Et notre relation avec cette planète merveilleuse. Parce que la planète elle-même, elle n'en a rien à battre.
Et vous avez bon espoir?
Écoutez, ce que je vois, c'est que la prise de conscience grandit, notamment, comme on sait, parmi les plus jeunes générations. Mais en même temps, ce qui est très frappant, c'est il faut croire à ce qu'on sait. On sait qu'on va mourir. Est-ce qu'on en tire toutes les conséquences? Est-ce qu'on dit assez qu'on les aime aux gens qu'on aime, alors qu'on sait qu'on a cette fragilité en nous? C'est ça le remède à la mélancolie.
Et aux plumes qu'on aime.
Et aux plumes. Voilà.
Merci Eric Orsenna d'être venu dans cette émission partager ce foisonnement.
Mais plus que merci, laissons tomber les écailles.
Oui.
Et laissons s'envoler les plumes.
Allons-y. Votre dernier ouvrage, Beaumarchais, un aventurier de la liberté, est une coédition Stock et France Culture adaptée de vos émissions d'été sur la même chaîne. En janvier dernier, est paru chez Stock Voyage au pays des bibliothèques, rédigé avec Noël Corbin, soit le texte du rapport demandé par l'ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen sur les bibliothèques, enrichi d'autres textes. Et on attend pour mi-janvier un roman d'amour. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi allègres qu'un renard en colimaçon. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie de la comédienne Liliane Rovert.